et messieurs, nous vous remercions d'avoir patienté. Bonjour et bienvenue à la conférence CNP Assurance, indicateur trimestriel au 30 septembre 2011. Si vous avez des difficultés pour entendre la conférence, vous pouvez appuyer sur la touche étoile, suivie de la touche 0 sur votre combiné téléphonique. Si votre téléphone est équipé de la touche fréquence vocale, veuillez sélectionner cette touche avant de composer étoile, suivie de 0. Nous allons maintenant passer la parole à Monsieur Antoine Lisowski. Monsieur, je vous en prie.
Bonjour, bonjour à tous. Excusez-moi pour ce retard. Comme le call avec les agences de presse a un peu débordé et qu'il m'était difficile de l'interrompre, je me trouve en débit vis-à-vis de vous. Je vous demande pardon. Donc je vous réitère les quelques éléments de communiqué pour vous les commenter, mais avec vous, il vaut mieux que vous posiez rapidement vos questions. Donc on est sur une logique où le chiffre d'affaires du groupe à 22,6 milliards baisse légèrement de 8,3%, ce qui correspond à une baisse en France de 11% et à une petite hausse à l'international. La collecte nette est restée positive non seulement sur les trois trimestres, mais sur le troisième trimestre dans son ensemble, de l'ordre de 600 millions d'euros sur le trimestre. Et elle est d'ailleurs toujours positive au moment où je vous parle sur le mois d'octobre, d'après nos derniers éléments de mesure. Le résultat courant hors plus-value, c'est-à-dire tout ce qui concerne le résultat en dehors des plus-values nettes des impairments, est de 756 millions d'euros, c'est-à-dire une croissance de 5% par rapport à l'an dernier. Et comme nous avons à peu près 220 millions d'euros de provisions diverses et quelques plus-values, ceci nous ramène à un résultat net sur les trois trimestres de 550 millions d'euros, donc inférieur d'à peu près 30% à celui de l'année dernière. Et on a repris de manière un peu rituelle les éléments relatifs à la solvabilité qui est à 151% sur l'ensemble est 112 sur les seuls fonds propres durs. Alors quand on entre un tout petit peu dans le détail de ces éléments, on voit d'abord, premier point sur l'activité, c'est sur les pages 2 et 3, que le recul de l'activité de CNP Assurance baisse de 8,3, il est essentiellement concentré sur le secteur de l'épargne. C'est le premier tableau que vous avez en haut à gauche de la page, en haut de la page 2. On voit que c'est l'épargne qui baisse en chiffre d'affaires, mais que les métiers retraite, prévoyance et emprunteurs continuent une progression, que ce soit d'ailleurs en France ou à l'international. Bon, le métier santé est très secondaire dans notre modèle, évidemment, est un petit peu en repli aussi. Donc, épargne en retrait, et quand on regarde la ventilation internationale, on voit que les gros montants du repli, ce sont la France et l'Italie, c'est-à-dire des univers dans lesquels nos activités d'épargne sont dominantes dans notre business model. Par contre, on voit que sur le Brésil, on continue à avoir une bonne croissance de l'activité, comme c'est le cas habituellement. Alors quand on regarde les unités de compte, on voit aussi que nous avons une progression au niveau du groupe et notamment à l'international des unités de compte qui représentent à peu près 19,8% dans le chiffre d'affaires. Et notamment, nous avons repositionné sur les unités de compte une grosse partie de la production en Italie. Alors, quand on observe maintenant les activités dans ce qu'on appelle nos centres de partenariat, on voit qu'en France, la baisse de 11,1% est inégalement répartie, puisque on a une baisse de 7,4% sur la banque postale, une baisse de 17,9% sur les caisses d'épargne, avec néanmoins des unités de compte plus importantes puisqu'elles correspondent à des emprunts commercialisés sous forme d'unités de compte. Puis le réseau CNP Trésor est aussi en retrait de 14% sur la période. Ensuite, vous regardez les autres pôles, les pôles collectifs, et vous avez des variations qui sont plus légères en amplitude. Entreprises et collectivités locales, on a une très légère baisse du chiffre d'affaires, mais c'est une baisse quelque part qui a été provoquée par les augmentations tarifaires auxquelles nous sommes en train de procéder sur ce secteur-là. Vous vous souvenez qu'on avait évoqué la sinistralité de ce secteur au semestre, donc nous sommes en train de le retarifer, ce qui évidemment se traduit par des interruptions de certains contrats quand les partenaires refusent les retarifications qu'on leur propose. Le secteur des établissements financiers apparaît ici en baisse de 6,8%. Cette baisse est notamment liée au contrat Cofidis, mais en réalité, l'assurance emprunteur, qui ne concerne pas seulement ce centre de partenariat établissement financier, mais aussi les caisses d'épargne et la banque postale, l'assurance emprunteur, elle, est globalement en croissance sur la période. Et puis l'activité avec les mutuelles, naturellement, est en augmentation. En ce qui concerne l'international, on a un chiffre d'affaires, c'est en haut de la page 4, en hausse de 3,2%, avec des activités en croissance importante au Brésil, à 18%, en baisse très importante en Italie, une baisse de 36%, et puis un chiffre cumulé de Barclays, Vida et Pensiones sur les trois pays d'Europe du Sud, qui est en augmentation forte par rapport à l'année dernière. Le chiffre d'affaires de Chypre est lui aussi en hausse par rapport à la période de l'année dernière. Alors si on en vient maintenant aux indicateurs de résultats que nous publions, vous voyez, pour reprendre le tableau de la page 5, que le chiffre d'affaires donc régresse de 8%, mais comme les encours moyens sont toujours en croissance de l'ordre de 5%, ceci nous amène à un produit net d'assurance, si je puis dire, net du compte propre, qui augmente toujours de 5,5%, à des revenus du compte propre lui-même qui progressent de 13% à 486 millions d'euros, et ce qui fait un PNA total de la compagnie qui est à 2 milliards 192 à plus 7%. Comme nous avons des frais qui augmentent beaucoup moins, de l'ordre de 3% en global, dont 0 en France en fait, ceci conduit à un résultat brut d'exploitation qui augmente de 9% de septembre à septembre. Alors, le résultat net courant hors plus-value, c'est-à-dire le net courant augmente plus faiblement, 5,4%. La différence entre les deux, c'est 3 postes. C'est la fiscalité qui augmente un tout petit peu, puisqu'on fait plus de résultats. C'est les charges de financement, et donc nous avons des titres subordonnés qui nous coûtent un peu plus cher aujourd'hui qu'ils ne nous coûtaient il y a un an. Et puis c'est les intérêts minoritaires, puisque la croissance de notre contribution vient pour une bonne partie des filiales à l'étranger sur lesquelles nous avons des gros minoritaires. Donc au total, nous avons un résultat net courant, c'est-à-dire en fait une espèce de résultat opérationnel qui continue à être en croissance de l'ordre de 750 millions d'euros. Et la bonne métrique, c'est de regarder le 756 au troisième trimestre. Donc on est toujours sur un rythme de contribution de cette ligne qui est de l'ordre de 250 millions d'euros par an. Alors par ailleurs, nous avons d'importants impairments sur le trimestre. On passe donc de 756 en courant à 550 en net. C'est du fait des deux lignes qui sont les lignes AFS et les lignes trading. Vous voyez leur ventilation sur la période. Alors naturellement, là, vous avez des résultats nets, c'est-à-dire en dehors des plus-values qu'on a constatées. Donc en net, vous avez globalement 206 millions d'impairment net des plus-values sur la période. Quand on ventile un tout petit peu les montants des impairments sur la période, globalement, vous avez une quarantaine de millions d'euros qui sont associés à la poursuite du provisionnement de la Grèce, où on a maintenant des provisions qui ramènent à 50% du nominal la valeur dans nos comptes. Donc on est à 50% du nominal. Et puis nous avons, mais ça c'est on va dire la quarantaine de millions d'euros qui est part des actionnaires. Et puis l'essentiel des impairments, il est lié à la baisse de la bourse qui était à 2980, je crois, fin septembre. Je précise pour ceux d'entre vous qui font un petit peu de comptabilité que comme on n'est pas dans des comptes définitifs mais dans des indicateurs trimestriels, ces impairments sont réversibles. Alors, si on était dans des comptes semestriels ou annuels, ils auraient un caractère définitif, on ne pourrait pas les reprendre en cas de remontée de la bourse. Là, dans le cas d'espèces, ces impairments sont des impairments entre guillemets provisoires, c'est-à-dire que si la bourse remontait, ce qui est rentré dans la zone d'impairment au 30 septembre pourrait en ressortir, on pourrait être amené à avoir moins d'impairments sur l'année. Si par exemple le marché terminait l'année au niveau courant actuel, on aurait sans doute moins d'impairments sur actions que ce qui est indiqué là. Donc, en gros, un trimestre où l'augmentation du résultat opérationnel a été absorbée, mangée par l'augmentation des impairments sur les portefeuilles, ce qui est un tout petit peu l'effet naturel de cette période. Bon, je n'insiste pas sur la solvabilité parce que là, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à ce que on avait déjà publié, mais c'est assez normal dans ce référentiel-là. Voilà, je me livre maintenant à vos interrogations.
Merci monsieur. Mesdames et messieurs, si vous désirez poser une question, appuyez s'il vous plaît sur la touche étoile suivie de la touche 1 de votre téléphone. Si vous voulez annuler cette question, appuyez s'il vous plaît sur la touche étoile suivie de la touche 2. Vos questions seront annoncées dans l'ordre de leur arrivée. Si vous utilisez la fonction main libre de votre téléphone, veuillez prendre le combiné avant de faire votre sélection. Si votre téléphone est équipé de la touche fréquence focale, veuillez sélectionner cette touche avant de composer étoile 1. Veuillez patienter, s'il vous plaît, en attendant la première question. La première question est de M. Michel Huttner de JP Morgan. Allez-y, monsieur, votre ligne est ouverte.
Merci. Bonjour, monsieur Dussoxy. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Je vous appelle. Je voulais juste trois éléments. Ils sont sans doute dans le communiqué, mais je n'ai pas beaucoup regardé. Les net inflows se situent à quel niveau, au 9 mois ou au trimestre, pour avoir une idée des cash flows. Après, sur le dividende, je sais que la CNP a toujours une tradition de au moins avoir un dividende stable, mais je voudrais comprendre un peu votre appréciation en ce moment, surtout si les marchés restent volatiles. Et puis le troisième point, justement, le point des impairments qui pourraient être réversibles. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments pour revoir ça, ou peut-être mieux dire quel est le score aujourd'hui? Voilà.
Alors, sur les net inflows, on doit être aux alentours de 4 milliards, un peu plus de 4 milliards de net inflows sur les trois trimestres. Mm-hmm. C'est à peu près le...
Sorry, Mark, I'll just say in English real quickly. On page 3 in the English, on the third paragraph, you get the net new money in France and so forth.
Parfait. Thank you.
Yeah.
Voilà.
Yeah, keep in mind the distinction between the group in France.
La
deuxième question, elle était sur le dividende.
Mm-hmm.
Bon, ça, on va dire, on n'a pas encore réfléchi à ça. On regarde ce qui se passe ici ou là, quoi, mais on n'a pas réfléchi à ça. Il y a quand même une habitude de CNP qui est de ne pas faire reculer le dividende d'une année sur l'autre. Donc ça, je peux dire qu'il y a une tradition assez forte quand même dans la maison là-dessus.
Mm-hmm.
Et sur le côté réversible des dividendes, des impairments, c'était simplement une remarque de méthodologie, puisque on nous a demandé quelle était la différence entre des comptes et des indicateurs trimestriels. Et je précisais simplement que si des indicateurs s'appellent comme ça, c'est parce que notamment nous ne sommes pas IFRS pour le trimestre, et que la différence que nous avons, c'est que les impairments peuvent ne pas être dotés sur l'année complète, les impairments définitifs, au même niveau qu'actuellement.
Mm-hmm.
Alors, sur l'ensemble des impairments, ce qui s'est passé dans le trimestre, c'est que, vous savez comment ça fonctionne, il y a une grille, c'est-à-dire que certains titres entrent dans la zone d'impairment s'ils ont perdu plus de 50% ou s'ils sont pendant 6 mois ou s'ils ont perdu 30% pendant 3 ans.
Mm-hmm.
Et là, on a un certain nombre de titres qui sont entrés dans la grille d'impairment au 30 septembre. C'est par exemple les titres Société Générale, tout le monde comprendra pourquoi,
mm-hmm.
ou Suez, ou des choses comme ça. Bon.
Mm-hmm.
Évidemment, si ces titres devaient reprendre à la fin de l'année, on n'aurait peut-être pas ces titres dans la grille de l'impairment définitif juridique. Je précise, même si vous n'avez pas posé la question, que pour ce qui concerne CNP, l'impact de Dexia en impairment est de l'ordre de 13 millions d'euros sur les chiffres que vous avez. Et donc aujourd'hui, dans les comptes globaux de CNP, la valeur de Dexia doit être négligeable. Il doit rester à peu près 85 millions d'euros de valeur de Dexia au 30 septembre. Donc c'est quelque chose qui nous a coûté un peu d'argent dans les années passées, mais pas tellement, on va dire, dans la période récente.
Parfait. Très bien, grand merci.
La prochaine question est de M. Thomas Jacquet de Exane. Allez-y, monsieur, votre ligne est ouverte.
Oui, bonjour Antoine, bonjour Jim. Moi, j'avais trois petites questions. La première, c'est pour savoir si vous avez vendu de la dette italienne pendant le trimestre. Ça avait l'air d'être une tendance chez les banques. Ma deuxième question, c'est sur l'augmentation du taux d'impôt normal en France l'année prochaine avec 3 points de plus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit mettre d'ores et déjà dans nos chiffres? Puis le troisième, c'est juste une question de maths niveau CE2, mais vous aviez annoncé à mi-année, si je me trompe pas, une collecte nette de 4,6 milliards, c'était dans les slides, et là on est à 4,1. Donc ce qui tendrait à montrer une décollecte sur le trimestre. Je suis sûr que c'est qu'une erreur de calcul et d'indicateur, mais est-ce qu'on peut en avoir un peu plus sur ce sujet?
Alors là, je regarde mes camarades et moi-même, nous sommes consternés parce que notre perception, c'est qu'il n'y a pas de décollecte au troisième trimestre, c'est plutôt l'inverse.
J'en doute pas.
Et donc, on va vérifier ce truc-là. On va voir s'il y a où se trouve le bug, s'il y a un bug quelque part. Okay, ça, je le repose pour plus tard. Sur le premier thème, sur l'Italie, c'est clair qu'on a, c'est pas sur l'Italie plus particulièrement, on a une politique d'arbitrage de lignes en moins-value obligataire et contre des lignes en plus-value obligataire en ce moment. C'est-à-dire, grosso modo, des lignes périphériques sur des lignes corps. Et on le fait, simplement, on le fait pas de manière massive sur tel ou tel pays, sur telle ou telle échéance, parce que tout simplement, on essaie de maintenir l'adossement du bilan, si je puis dire, dans le temps. Si bien que pour faire un dégagement, il faut à la fois vendre une ligne, trouver la ligne qui permet de dégager la plus-value correspondante pour avoir un résultat neutre, et ensuite trouver les nouveaux investissements qui permettent de réadosser le résultat, le bilan. Si bien qu'en fait, on fait ces réaménagements régulièrement sur l'ensemble des périphériques, mais ça n'est pas une politique sur l'Italie plus particulièrement, quoi. Et alors, dernier truc sur le sur la fiscalité, alors là, je mets mon joker parce que Vincent Lebrun, directeur comptable, était en train hier de me dire de manière gourmande qu'il se demandait si vraiment l'augmentation de la fiscalité allait nous impacter ou s'il allait trouver un truc. Donc je me fie à lui pour trouver un truc pour que ça augmente pas trop le taux d'impôt, mais je ne sais pas comment il va faire, pour tout vous dire. Enfin voilà, en principe, si vous voulez le mettre dans votre grille, ce serait logique que vous le mettiez à ce stade en tout cas.
D'accord, merci beaucoup.
La prochaine question est de M. Thomas Fossard de HSBC. Allez-y, monsieur, votre ligne est ouverte.
Oui, bonjour à tous. J'avais plusieurs questions. Première question sur les revenus du compte propre. J'ai peut-être de mauvais chiffres dans mon modèle, mais j'avais des revenus du compte propre qui, au premier semestre 2011, était à 419, je vois un chiffre à 486 en 9 mois, ce qui voudrait dire qu'on a eu une contribution des revenus du compte propre au Q3 qui a été extrêmement faible. Si tel est le cas, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui aurait bien pu se passer à ce niveau-là dans les comptes? Le deuxième élément, c'était sur les impairments sur les actions. Le CAC restait donc sur les niveaux de clôture de fin septembre de 1980, comme vous l'avez indiqué, quel serait le montant d'impairment, je dirais, mécanique que vous auriez à passer en plus d'ici à la fin de l'année? Sur la dette grecque, excusez-moi, j'ai pris le call en retard. Je ne sais pas si vous avez précisé Comment vous aviez impacté les...
On est à 50% du nominal hein, maintenant.
D'accord, mais les haircuts supplémentaires, comment vous les avez impactés sur la PPE? Et finalement, jusqu'où finalement vous pouvez utiliser la PPE pour continuer à right-offer de la dette souveraine? De mémoire, la PPE était à 2,7 milliards à fin juin. Donc c'était pour avoir une idée de savoir comment finalement... Quel avait été finalement l'impact brut des Raiden au Q3 sur la dette grecque et finalement quel était l'impact net dans les comptes donc dans les 550 millions
D'accord.
En tout cas dans les résultats quasiment à zéro du troisième trimestre. Merci.
D'accord. Alors je reprends. Attendez, je m'éloigne un peu pour reprendre mon dossier. Alors vous me rappelez dans l'ordre si vous voulez bien.
Oui, la première question c'était sur le PNA qui paraît très faible. Au troisième trimestre.
Ah, sur le compte propre.
Pardon, le compte propre, oui.
Oui, mais il y a, on va dire, une explication à ça, c'est qu'une bonne partie du résultat du compte propre, il est constitué par les dividendes sur des actions, et donc il est normal, puisqu'on les reçoit au deuxième trimestre, qu'il y a des bosses. Ça, c'est pas normal.
D'accord.
D'une année sur l'autre, ça augmente, et c'est ça qu'on regarde, c'est pas tellement le trimestre. Pour tout vous dire, le suivi trimestre à trimestre de cette rubrique-là, est pas... C'est un peu un constaté plutôt qu'un piloté.
D'accord.
Votre deuxième question, c'est quel serait le niveau des impairments si le marché à la fin de l'année était à 2980.
Ouais.
La mécanique, c'est qu'il serait exactement au niveau où il est au 30 septembre, puisque l'hypothèse, c'est qu'on fait la photo à 2980.
Il n'y aurait pas des règles de durée
d'entrée,
de duration
d'entrée, oh ben non, enfin, à ma connaissance, on a entré... Les titres qui étaient en difficulté, si je puis dire, qui étaient avec les durées réglementaires, on les a entrés au 30 septembre et on m'a pas indiqué qu'il y avait d'autres entrées dans le périmètre prévu, j'en sais rien, mais les gros morceaux, si je puis dire, qui étaient Suez, on a un impairment d'à peu près 80 millions sur Suez, on a un impairment d'une 35 millions ou 40 millions sur Société Générale, des choses comme ça, c'est des données de septembre, quoi. J'en vois pas d'autres. On va bientôt avoir couvert, en fait, on va bientôt avoir couvert l'essentiel de la dette là-dessus. Alors, ensuite, sur la Grèce, alors je cherche dans mes dossiers pour vous donner des informations plus précises. Donc, globalement, alors je n'ai pas les montants sur le trimestre, mais globalement, l'impairment sur la Grèce pour l'ensemble des portefeuilles, il est de 955 millions d'euros au 30 septembre. Et la variation nette d'impairment, elle est de 34 millions d'euros. Il y a en plus des dépréciations qui passent directement dans le PNA, mais en gros, vous avez une dépréciation nette de 34,88 millions d'euros. Alors, je n'ai pas la charge, je regarde en vitesse les commentaires, je n'ai pas la charge particulière sur le trimestre de cette impairment. Bon, la question de savoir si on peut continuer à imputer sur la PPE, bah, il reste évidemment... en gros, la PPE, elle faisait 3 milliards au début d'année, on enlève 950 millions d'euros, il reste plus de 2 milliards, et je veux dire, ils sont là pour porter des lissages. Hein, donc ça, c'est de la mécanique simple, il reste de la marge de manœuvre là-dessus, quoi, mais...
D'accord. Mais alors, juste une petite question, et c'est peut-être un peu trop tôt pour répondre à cette question-là, mais compte tenu du fait que vous êtes un groupe prudent et que vous utilisez le PPE à court terme pour netter des chocs externes, mais qui donc du coup, on peut penser que vous seriez amené quand même à faire un effort autant que possible pour reconstituer cette PPE overtime. Est-ce que dès maintenant, sur nos résultats 2012, 2013, 2014, est-ce qu'il faut qu'on commence à intégrer dans la partie exceptionnelle, quelque part, un processus de reconstitution graduelle de la PPE qui pourrait être, par exemple, de 200 millions par an à partir de l'année prochaine?
Alors, je vois l'esprit de votre question. On n'a pas du tout aujourd'hui de programme de reconstitution ou même d'horizon de reconstitution de la PPE. Clairement, on n'a pas d'horizon là-dessus. Ça dépendra très franchement du moment où on aura le sentiment que la crise de la dette souveraine est stabilisée et que donc à ce moment-là, on peut dire quelle est la cible de reconstitution du coussin pour nous retrouver dans une situation équivalente statu quo ante crise souveraine de cette année. Mais ça n'aurait pas vraiment beaucoup de sens que de dire on a à la fois une politique de reconstitution de la PPE et la PPE reste disponible pour pouvoir absorber des chocs ultérieurs, j'en sais rien moi. Donc on n'a pas aujourd'hui de politique de reconstitution de la PPE au travers du résultat.
D'accord. Très bien, merci.
La prochaine question est de Emmanuel Calès de la Société Générale. Allez-y, vous pouvez poser votre question.
Oui, oui, bonjour.
Bonjour.
J'avais juste deux ou trois questions sur la recovery. Vous parlez des unités de compte en Italie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de l'état de santé du marché italien ces dernières semaines? Et puis votre vue sur les prochains mois. Sur le mark to model, désolé de cette petite question un petit peu technique, mais quelle est la à fin septembre, quelle est la différence entre, sur la Grèce bien sûr, entre votre mark to model et la valeur de marché? Est-ce qu'on pourrait avoir une petite idée, puisque vous faites impairment contre mark to model? Voilà, troisième question, honnêtement, c'était quand même sur la PPE. Je reste, est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre à fin septembre? Quel est le montant de votre PPE à fin septembre?
Sur la PPE fin septembre? Non.
Non,
ouais. Non, ça, je n'ai pas de chiffre à diffuser.
Okay.
Alors, sur votre première question, elle était
sur l'état de santé du marché italien. Vous avez mentionné les unités de compte qui est en recovery.
Alors, écoutez, sur l'Italie, on est en train de, enfin, comme d'habitude, si je puis dire, on révise avec nos partenaires les business plans. Et globalement, la pente du business plan est plus élevée en termes de résultats et moins élevée en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'on va faire moins de chiffre d'affaires dans les métiers de l'épargne. Et on va essayer de le faire plus sur la partie UC, tout simplement parce que, en termes de gestion du risque, vendre des contrats euros avec une garantie de capital sur alors que les investissements se font sur des fonds d'État italiens dont les taux montent, c'est malsain. Donc, on ramène, si je puis dire, la croissance du segment épargne à la croissance possible de la partie UC. Ok.
Mm-hmm.
De ce point de vue-là, si je puis dire, la même explication produit l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on vend assez facilement en ce moment des UC en Italie investis dans des fonds d'État italiens. Ça, évidemment, c'est pas très très compliqué. Mais par contre, donc en gros, chiffre d'affaires qui sera moins élevé, moins croissant que prévu, et par contre, résultat qui augmente plus, tout simplement parce que dans les segments emprunteurs et prévoyance, les activités marchent plutôt plus vite qu'on l'avait prévu. Et d'ailleurs, ça se voit dans les chiffres d'affaires de ces deux métiers-là. Et donc, on est en train d'essayer de faire en Italie ce que on a fait dans les autres filiales étrangères, c'est-à-dire de ramener la part de l'épargne à moins. Pour mémoire, dans toutes les filiales hors Italie, l'épargne représente moins du quart du PNA. En Italie, elle représente une grosse partie du PNA, mais dans toutes les autres filiales, elle représente moins du quart. Et donc, notre objectif, c'est d'arriver à diluer la part épargne du PNA en Italie.
Est-ce que de manière plus générale, ça veut dire que, incluant la France au total, vous pensez que vos marges sur affaires nouvelles, elles ont touché un point de bas et qu'on est plutôt en recovery?
Alors, le taux de marge, les marges sur affaires nouvelles vont toucher sans doute un point bas, mais le taux de marge sur affaires nouvelles est assez étonnamment très élevé au trimestre. C'est normal puisque comme on vend plus, grosso modo, on vend moins d'eau tiède et plus de produits à valeur ajoutée, mm-hmm. on en vend beaucoup moins quantitativement. Donc le taux est très, en ce moment très élevé, mais sur des volumes plus faibles.
Ok.
Votre troisième interrogation, elle était quel est le market de la Grèce en ce moment?
En fin septembre, on était à moins 60%.
Moi, j'ai plein de stats. J'ai plein de stats. Pour montrer qu'il n'y a pas de marché. Donc,
d'accord.
Alors, pour aller jusque un peu plus loin dans le raisonnement, 50 ou 60%, pour nous, c'est neutre. Donc, on a mis 50 parce que simplement, au moment où on a fait les comptes, c'était 50%. On regarde autour de nous, il y a des agents qui sont à 50, j'ai vu que le Commerce Banque le faisait comme ça, il y a des gens qui feront plus de la 60, bon, très bien. Deuxième chose, quand on regarde la plupart des effets des grandes crises avec des défauts à 100%, il y a toujours une recovery, et donc à la fin du jour, comme disent les Anglais, on a une récupération de l'ordre de 30 à 35% des créances dans les histoires enfin, latino-américaine et autres, quoi. Bon. Donc, le truc se balade entre 50 et 65%. On a vraiment des débats là-dessus et c'est plutôt une question de flemme de refaire nos comptes toutes les deux semaines qui fait qu'on est resté à 50% parce qu'on l'avait fixé il y a 15 jours. Honnêtement, si on était aujourd'hui, on aurait peut-être mis 60% et donc on mettra peut-être 60% dans les comptes annuels. C'est un peu secondaire pour te dire comme choix, quoi. Le 10% en global, en brut, hein, 10% c'est 200 millions d'euros, à peu près. Hein. Et voilà quoi.
D'accord, oui, c'est clair. Merci bien.
Bonne journée.
La prochaine question est de Alexis Arki de la société Chevreux. Vous pouvez poser votre question, votre ligne est ouverte.
Bonjour à tous, j'ai trois questions. La première, c'est si vous avez à communiquer un update sur Solvabilité 2, donc sur votre modèle interne, si vous avez un ratio ou si où ça en est par rapport au processus d'approbation par le régulateur. La deuxième question concerne les frais de gestion. Sur mon modèle en plus 3, j'ai moins 1% par rapport à l'année dernière. Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que vous avez d'autres plans de cost-cutting en place? Enfin, la troisième question, ça concerne Groupama. On en entend beaucoup parler en ce moment et il y a des rumeurs de rapprochement éventuel. Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus?
Non, alors on n'a pas de commentaire sur Groupama. D'ailleurs, personne n'en fait en ce moment. Donc,
bien sûr.
Ce serait plutôt l'inverse qui vous surprendrait. Sur les frais, en fait, on a des frais France qui sur l'ensemble de l'année 2011, je ne parle pas seulement des trois trimestres, mais l'ensemble de l'année 2011, seront exactement au même niveau que sur l'année 2010. Donc on aura 0% sur la France. Alors évidemment sur l'international, comme il y a de la croissance un peu plus forte, le taux actuel est de l'ordre de 6%, je crois, de trimestre à trimestre. C'est essentiellement lié à la fois à la croissance du Brésil et puis à des éléments très spécifique concernant la filiale espagnole qui fait un peu d'informatique d'exécution en ce moment, mais le taux moyen de croissance sera inférieur à 3 sur l'ensemble de l'exercice pour eux. Sur Solvabilité 2, on ne fait pas d'update en ce moment. Le truc est très cyclique. Ce qu'on me dit, c'est que on a été, évidemment, on a un taux de couverture qui a baissé d'après les actuaires extérieurs qui font la revue du marché. Nous, on n'a pas fait de mesures spécifiques. Je pense quand même que le caractère procyclique de Solvabilité 2 est une problématique dont les autorités de place devraient se saisir un peu plus à l'occasion de cette crise. Nous sommes à CNP partisans de faire un QIS6 pour pouvoir regarder en réel ce qu'une crise comme la crise actuelle implique en termes de volatilité du ratio de couverture. Donc j'ai pas le calcul, on n'a pas fait de calcul interne sur Solvabilité 2 au 30 septembre ni d'ailleurs au 30 juin. Pour tout vous dire, on est en train simplement de faire ce qu'on appelle le QIS5 bis, c'est-à-dire de refaire le QIS5 complet sur le 31-12. Et ça ne me donne pas beaucoup d'informations puisque le QIS5 complet sur le 31-12 il est à 170%, ce qui ne vous donne pas les impacts de la crise actuelle. Et quand on sera au mois de février, on va essayer de faire effectivement une espèce de QIS5 approché sur le 31-12-2011.
Très bien, merci beaucoup.
Nous avons une question supplémentaire de M. Fossard. M. Fossard, votre ligne est ouverte.
Oui, désolé de revenir. C'était juste pour savoir si vous pouviez nous dire un petit peu dans quel état d'esprit vous étiez pour l'année prochaine concernant la dynamique de la collecte en France. Est-ce que d'après vous, compte tenu de l'environnement et des trends, je dirais un petit peu peut-être sous-jacents qui sont apparus cette année dans le marché, est-ce que il est raisonnable de penser sur une nouvelle année de baisse l'année prochaine, ou est-ce que vous pensez entrevoir une stabilisation de la collecte? Merci.
Écoutez, pour le moment, ce que je vois dans les remontées budgétaires, c'est plutôt une remontée de la collecte par rapport à 2011. Voilà, on ne rejoint naturellement pas les niveaux antérieurs, mais on n'a pas une deuxième année de collecte brute, de baisse de collecte brute. On n'a pas une baisse de collecte brute l'année prochaine. Voilà, c'est des remontées budgétaires pour le moment.
D'accord, merci.
Il n'y a plus aucune question, monsieur.
Ok, ben alors bonne journée à tous.
Mesdames et messieurs, ceci conclut la conférence CNP Assurance. Nous remercions tous les participants. Vous pouvez maintenant vous déconnecter.